Bonjour Robert Mallet.
Bonjour.
Ce lundi, c'est la rentrée diplomatique avec la venue à Paris de tous ceux qui représentent la France à l'étranger. Dans quelques heures, le président Macron recevra ses ambassadeurs et déclinera devant eux les grands axes de sa politique étrangère. Un exercice attendu dans un contexte lourd de tensions et d'incertitudes. Le thème donné à la conférence cette année, c'est, je cite, « alliances, valeurs et intérêts dans le monde d'aujourd'hui ». On ne peut pas s'empêcher de penser au slogan « America first », cher à Donald Trump. Alors jusqu'où la priorité accordée aux intérêts de l'Amérique d'abord, jusqu'où cette priorité peut-elle compromettre éventuellement les alliances traditionnelles ?
Écoutez, on voit déjà qu'il y a des changements assez importants dans l'attitude de l'administration américaine vis-à-vis d'alliés traditionnels, que ce soit le Canada, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'Allemagne. Donc, bien sûr, nous sommes dans une situation d'évolution, de péril, de danger, mais aussi d'opportunité. Opportunité pour un pays comme la France d'essayer de s'affirmer dans un monde où tout semble être un peu incertain, tout semble être désordonné. Donc, je pense que c'est un moment, comme vous le dites, où il faut se poser des questions. Il faut se rendre compte que les États-Unis aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient il y a un certain moment. On ne sait pas pour combien de temps encore. Essayer de s'adapter, essayer de jouer un rôle peut-être un peu plus important.
Vous voulez dire qu'on ne peut plus forcément les appeler alliés? Ce ne sont pas des alliés indéfectibles aujourd'hui, les États-Unis?
Je dirais qu'il faut éviter deux extrêmes. Il faut éviter l'extrême qui est de dire que rien n'a changé, qu'on peut traiter avec les États-Unis comme d'habitude. Il y a eu un changement qui est réel et que ce n'est pas seulement un changement provoqué par le président Trump. C'est vrai qu'il y a une dynamique, une trajectoire de changement de l'attitude américaine vis-à-vis de la communauté internationale, d'un petit retrait qui est naturel. L'hyperpuissance américaine n'est plus.
Mais il faut également... Vous en parlez en connaissance de cause, ayant été conseiller du président Obama sur les questions du Proche et du Moyen-Orient.
Oui. Et c'est vrai qu'on a déjà vu sous l'administration Obama, la campagne électorale américaine, un point de vue qui se dit on peut pas être les gendarmes du monde. Donc il y a ce retrait qui est tout à fait naturel. Donc je pense que pour la France, il faut comprendre qu'il y a un changement. Mais il ne faut pas non plus prendre des décisions irréversibles face à une présidence réversible qui durera peut-être 4 ans et qui est quand même une présidence exceptionnel au sens négatif dans l'histoire américaine.
Mais est-ce que vous avez observé des signes de cette opportunité, enfin, que les Européens, les Français notamment, saisissent cette opportunité, aillent de l'avant et prennent des initiatives? Vous avez l'impression que c'est en route, en marche, pourrait-on dire?
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a déjà, du point de vue rhétorique, il y a une opportunité, encore une fois, pour un pays comme la France, pour l'Allemagne, de hausser le ton et de prendre des positions très fortes sur l'importance de certaines valeurs, de certaines alliances. Et puis sur des dossiers concrets sur lesquels on reviendra peut-être, comme l'Iran, une opportunité de résister face à des décisions négatives de la part des États-Unis.
Alors justement, pour évoquer l'Iran, enfin, Emmanuel Macron a eu la tentation d'essayer de maintenir, de peser sur la diplomatie américaine, de maintenir les États-Unis dans l'accord sur le climat, dans l'accord nucléaire iranien. Est-ce que, à votre avis, il a un peu perdu son temps en essayant de peser de cette façon-là? Est-ce qu'il fallait directement passer à l'initiative en faisant fi de la position américaine?
C'est difficile de le dire. Je pense qu'il y a une période on a essayé de s'adapter. Le président Macron a essayé de s'adapter à la présidence Trump, un peu de le séduire, de voir si on pouvait travailler avec lui. Il a essayé peut-être plus longtemps que d'autres. Finalement, ça n'a pas réussi sur le dossier iranien. Peut-être un peu de temps a été perdu, mais pas trop. Et maintenant, vraiment, l'échéance est importante, c'est d'essayer de sauver cet accord autant que possible, pour autant de temps qui sera souhaitable.
Alors, parce que ce qu'on voit aujourd'hui avec les Iraniens, c'est que finalement les sanctions commencent à avoir un impact, oui. Y compris politique, puisque le président Rouhani, sa présidence est mise à mal, il va devoir s'expliquer devant les députés, il a perdu deux de ses ministres, le ministre de l'économie a été limogé encore ce week-end. Finalement, que peuvent faire les Américains, les Européens pour sauver, enfin les autres signataires de l'accord, les Chinois, les Russes, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, que peuvent-ils faire pour sauver l'accord?
D'abord, il faut être clair, et on le voit, et on l'avait prédit, c'est les industriels européens, français et autres, se dessaisissent du dossier iranien, se retirent de l'Iran. Ça, c'était naturel, il fallait s'y attendre. Maintenant, il y a deux choses que la France et d'autres pays peuvent faire, vous les avez mentionnées. D'abord, d'un point de vue politique, diplomatique, affirmer qu'ils se tiennent à cet accord et qu'ils vont continuer à traiter diplomatiquement avec l'Iran. Ça, c'est important. Et deuxièmement, essayer de faire tout leur possible pour conserver le minimum d'échanges, de commerce avec l'Iran. Je reviens de discussions avec des officiels français. Ils réfléchissent à des méthodes. C'est une bonne chose. Ça n'ira pas très loin, mais assez peut-être pour convaincre l'Iran qu'il vaut mieux rester dans cet accord que de le rompre et se trouver totalement isolé, y compris vis-à-vis de l'Europe.
Oui, mais alors, il y a la question des sanctions secondaires.
Oui.
Donc, les États-Unis sanctionnent l'Iran, mais sanctionnent aussi toute entreprise qui va faire affaire avec l'Iran. On n'a plus aucun levier. Les États n'ont pas de levier dans ces cas-là pour maintenir les entreprises.
Les compagnies privées prendront leurs décisions sur des bases commerciales, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a d'autres méthodes un peu plus inventives que les pays européens sont en train de mettre en œuvre pour essayer de conserver un peu des échanges avec l'Iran.
Et quand on voit l'Iran qui entame des démarches devant la justice internationale à La Haye aujourd'hui même pour attaquer la reprise des sanctions américaines, où est-ce que ça peut mener d'après vous?
Je pense que ça relève plutôt du symbole politique que de la réalité. Ça ne forcera pas les États-Unis à changer leur route.
Donc il n'y a rien à en attendre.
Je ne pense pas que ce soit un dossier qui sera réglé de manière judiciaire, non.
Alors, l'une des raisons qui a fait que Donald Trump se retire de cet accord, c'est notamment l'influence très importante qu'a pris l'Iran dans toute sa région, et notamment en Syrie. Hier, le ministre de la Défense iranien a rencontré Bachar el-Assad et des hauts responsables de militaires syriens. Est-ce que aujourd'hui, les États-Unis, les Occidentaux, en général, ont complètement perdu la main sur le dossier syrien?
D'abord, je pense qu'il faut un peu corriger la thèse selon laquelle le président Trump s'est retiré de l'accord à cause de quelques arguments rationnels. Il l'a fait parce que c'est un accord qui a été signé par son prédécesseur et qu'il veut défaire son héritage. Maintenant, sur le dossier syrien, c'est vrai, ça fait un certain moment que les pays occidentaux et leurs alliés ont perdu la guerre qui se déroule entre le régime et l'opposition. On pourra revenir sur les causes, mais c'est vrai, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est essayer de contenir ce conflit et de mettre fin aux pertes civiles qui se déroulent dans ce pays. Et là, je pense qu'il faut que l'Europe travaille avec les États-Unis si possible, avec la Russie lorsque c'est possible également, pour essayer de réduire les pertes humaines qui sont catastrophiques.
Parce que très concrètement, maintenant sur le terrain, c'est la question d'Idleb et sa région.
Voilà.
Une grande offensive se prépare. C'est d'ailleurs pour ça que le ministre de la Défense iranien était à Damas. Il se passerait de nouveau un recours aux armes chimiques de la part du régime, etc. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible d'imaginer une intervention quelconque de la part des États-Unis?
Je pense qu'il est possible d'imaginer le genre d'intervention que le président Trump a déjà ordonné, c'est-à-dire des frappes ciblées contre des cibles syriennes en cas d'usage d'armes chimiques. Ça ne changera pas la trajectoire de la guerre à ce moment.
Et le Yémen? Le Yémen, vous étiez dans l'administration américaine quand les frappes ont commencé avec les drones et déjà des pertes civiles. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce conflit aujourd'hui? Est-ce que vous pensez, comme le disent certains chercheurs, que la France aurait une carte à jouer parce que la France parle à la fois avec les Iraniens et avec les Saoudiens?
Oui. Et je pense que le Yémen, évidemment, la situation en Syrie est pire, mais la situation humanitaire la plus catastrophique aujourd'hui dans le monde, c'est les Nations Unies qui le disent, c'est au Yémen. C'est un dossier qui est différent du dossier syrien du point de vue français et américain parce que les pays occidentaux ont des rapports proches avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, qui conduisent des opérations militaires. Donc, on peut mettre la pression sur eux d'une manière qu'on ne peut pas politiquement, ni sur la Syrie, ni sur l'Iran, ni sur le Hezbollah. Donc, dans le dossier Yémen, je pense qu'il y a une responsabilité très forte de la part de la France et des pays européens pour mettre la pression sur leurs alliés du Golfe pour mettre un terme à cette guerre.
Merci beaucoup, Romer Mallet, d'être passé dans notre studio à Paris.
Je vous remercie.